Et on le retrouve, Olivier Beauregard, pour parler sport. Bien sûr, Olivier, bonjour.
Salut.
Là, il y en a peut-être qui vont dire « Ah, mais ça, il y en a déjà parlé, puis ça aussi, mais il y a de nouvelles actualités concernant certains dossiers, puis c'est le cas notamment d'Équipe Canada Junior. »
Absolument. Puis là, je suis désolé pour ceux et celles qui trouvent que les sujets commencent à être redondants, mais c'est ce qui frôle le plus les grosses nouvelles dans l'actualité des dernières semaines. C'est sûr qu'on suit de très près ce qui se passe avec Équipe Canada Junior en raison de la COVID. Il y a quelques semaines, on vous disait sur nos ondes justement que l'équipe canadienne était confinée pendant une période de 14 jours à l'hôtel parce qu'il y a eu des cas de COVID qui ont été répertoriés. Et là, c'était le retour à l'entraînement du côté d'Équipe Canada Junior. On avait hâte de voir justement les joueurs sur la glace. On avait hâte de voir également les premières coupures parce que l'équipe canadienne n'avait pas eu le temps de le faire. On a appris, écoute, une bien mauvaise nouvelle là, aujourd'hui, là, c'est que le Gatineau Hendrix Lapierre des Saguenay a été coupé très tôt ce matin. C'est malheureux. Il n'a pas pu éviter le couperet. Ce qui est encore plus triste, c'est que en début de semaine, Xavier Simoneau n'a pas passé le test de la COVID. Un autre gars qui vient de la région de l'Outaouais. Et lui également est obligé de s'en aller. C'est pas une coupure, mais malheureusement, dans son cas, du côté de l'IHF, on lui permettait pas de rester dans l'environnement de l'équipe canadienne. Alors, ça fait deux gars de la région en qui on fondait énormément d'espoir qui ont été coupés. Je vais vous parler rapidement de la coupure d'Hendrick Lapierre. Écoute, moi, je l'ai pas vu aller aucun entraînement, comme je te dirais, la majorité des journalistes, parce qu'on n'y a pas accès. Mais ce qu'on entend d'André Tourigny, c'est qu'Hendrick Lapierre, pis ça, je suis pas surpris, là, a eu un comportement exemplaire, a fait ce qu'on lui a demandé. La seule chose, Sébastien, c'est qu'Hendrick Lapierre a été embêté par une vilaine blessure l'an dernier, puis ça, je vous en ai déjà parlé en termes de commotion cérébrale. Par la suite, on a découvert une blessure qui a fait en sorte qu'on a dû attendre encore plus longtemps. Il a manqué presque l'ensemble de la saison l'an dernier. Alors, Hendrick Lapierre n'a pas vu du gros hockey depuis un bon moment. Ça a été son année de repêchage. Tout de même, il a réussi à sortir en première ronde chez les Capitals de Washington. Par contre, je suis pas vraiment surpris du côté de Hockey Canada. On se dit, est-ce qu'il est vraiment prêt à jouer un tournoi aussi intense avec les meilleurs de chaque pays, alors que le gars n'a pas beaucoup joué au hockey dans la dernière année et demie? Tu sais, honnêtement, là, je pense pas qu'Hendrick Lapierre, c'est en raison de son gabarit, c'est en raison qu'il est pas assez bon, qu'il n'a pas sa place là. Moi, je pense vraiment que c'est une question de peut-être manque d'hockey au courant des dernières années. Okay. Je pense que c'est ça qui va faire la grosse différence, malheureusement, pour lui, là, dans plusieurs scénarios. T'sais, même lorsqu'il va retourner dans les camps professionnels là, pour la saison, bon, probablement pas cette année, parce que je vous en reparlerai de la Ligue nationale, mais lorsqu'il s'amènera dans les camps d'entraînement, c'est sûr qu'à chaque fois, ça va être la grande question. Est-ce qu'il a retrouvé son rythme? Est-ce qu'il a retrouvé sa confiance? Disons que c'était presque impossible, même s'il y a quelques matchs de jouer cette saison dans la Ligue junior majeure du Québec, c'était pratiquement impossible pour Hendrick Lapierre d'être au sommet de sa forme, d'être au sommet de son art. Alors moi, je suis pas surpris. C'est plate, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors du côté de l'équipe canadienne, il reste toujours 34 joueurs au camp de sélection. Ça va se poursuivre jusqu'au 13 décembre. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va arriver d'ici le 13 décembre?
Est-ce qu'il va y avoir un tournoi? Parce qu'on a bien beau s'arranger bien du côté d'équipe Canada Junior. Est-ce que le championnat va se tenir?
Oui, mais écoute, ce qu'on sait, là, c'est qu'on est supposé débuter la ronde préliminaire contre l'Allemagne du côté du Canada le lendemain du camp de sélection. Donc, le 14 décembre, là, ça serait 7 semaines, Sébastien. Et là, ta question est hyper bonne parce que ce qu'on apprend, c'est qu'il y a de plus en plus d'équipes qui doivent s'amener au pays qui sont affectées par la COVID-19. Écoutez, on apprenait un peu plus tôt cette semaine que, d'abord, il y avait l'Allemagne, justement, qui était affectée. On parle de deux joueurs qui ont été touchés. Du côté de la Suède également, on rapportait que 4 joueurs étaient touchés par la COVID-19 en plus de l'entraîneur-chef de la formation. Et ce matin, on apprend que la Suisse est également affectée par des cas de coronavirus. Alors, ça fait en sorte, Sébastien, là, que là, on parle de 3 formations qui sont supposées d'être dans la ronde du tournoi, assurées d'être dans la ronde préliminaire. Puis là, ce qu'on comprend, c'est que ces équipes-là, présentement, doivent suivre probablement un protocole de 14 jours comme tout le monde à qui on va répertorier un cas de coronavirus. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait du côté de l'IHF? Qu'est-ce qu'on fait du côté du tournoi? Est-ce qu'on se dit, on prend le temps, on repousse la date, le début des matchs hors concours et on repousse un peu le tournoi? ou simplement est-ce qu'on va être obligé à un moment donné de se rendre à l'évidence? Évidemment, il y a d'autres formations, puis je comprends que c'est pas toutes les équipes, qu'il y a beaucoup d'efforts derrière ça. Sauf que là, tu vois ça tomber, Sébastien, puis je me dis, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi les ressources qu'on peut faire? Parce que, évidemment, tu veux pas amener des équipes au Canada qui sont présentement affectées par des cas de COVID-19.
Non, évidemment.
Ça serait complètement ridicule de faire ça. Alors, ce qu'on nous a dit, là, c'est que la compétition oblige aux équipes et aux joueurs qui ont été atteints de déclarer négatif au moins 3 fois à partir du 6 décembre. Alors, depuis la semaine dernière, là, parce qu'il y a eu des cas qui ont été répertoriés la semaine dernière, comme je vous disais, faut qu'on soit déclaré négatif au moins à 3 reprises avant même de songer à s'amener au pays. C'est ce qu'on demande du côté du tournoi. Alors, évidemment, est-ce que ça va pouvoir se faire? Ben ça, c'est à suivre. Je sais que c'est redondant comme sujet, je sais que je vous en parle beaucoup, mais c'est un tournoi qui est important non seulement pour les amateurs, mais qui est important également pour les joueurs, est important même pour l'avenir de la Ligue nationale de hockey. Fait que tu sais, des situations comme ça, c'est malheureux, mais fallait s'y en attendre. Honnêtement, là, de tenir un tournoi en pleine pandémie, c'est difficile, Sébastien, c'est quasi impossible. Alors on verra ce qui va advenir. J'aimerais ça vous dire que il y a encore des possibilités. La vérité, c'est que je ne sais pas, mais plus je m'informe de ce qui se passe du côté du championnat mondial junior, plus je m'informe de ce qui se passe du côté d'équipe Canada. Écoute, on est à quelques cas d'arrêter ça, là. Mm-hmm. C'est pas plus compliqué que ça parce que ça va venir à un moment donné trop compliqué.
Sinon, ben, est-ce que le 13 janvier, c'est à la bonne date où on a mis notre X sur le calendrier là, pour le retour de la LNH? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est sûr? C'est pas clair, là, on dirait.
Ben, moi, je vais te dire une affaire, t'es pas mal dessus, puis c'est pas mal ce qu'on nous rapporte là dans les derniers jours. Écoute, moi, je suis le premier surpris, Sébastien, parce que je m'attendais à ce que ça soit, encore une fois, presque impossible là, mm-hmm. du côté de la Ligue nationale de tenir une saison en janvier, parce que je me disais, il n'y a pas d'entente. Les équipes sont même pas sur la glace. On n'a même pas rapatrié tout le monde. Comment qu'on va faire ça? Ben là, semblerait-il qu'il y a eu une réunion des gouverneurs, conférence téléphonique hier, et là, on a décidé de parler de la composition des divisions. Là, vous allez me dire, crème, on est déjà rendu là. Oui, c'est parce qu'un peu plus tôt cette semaine, on apprenait que les joueurs et la Ligue nationale de hockey étaient tout près d'une entente. On était tout près d'une entente à signer et à accepter justement les détails financiers qui posaient problème depuis le début. Alors, hier, les gouverneurs ont dit, savez-vous quoi, on va prendre de l'avance, on va se rencontrer avec la Ligue nationale, puis on va voir qu'est-ce qui va en venir au niveau des divisions. Encore là, il n'y a pas de décisions qui sont déterminées, là, évidemment. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y aura une division canadienne. Ça, c'était déjà confirmé de toute façon, parce qu'on veut éviter des déplacements entre pays. Alors, le Canada va s'affronter tout simplement dans cette saison-là, et ça, c'est confirmé. Le Canadien va affronter les Sénateurs, Winnipeg, Calgary, etc. Et du côté de l'Amérique, là, ben, on verra du côté des États-Unis à quoi vont ressembler les divisions. Évidemment, on va tenter de rejoindre les équipes qui sont le plus près, là, qui ont le moins de distance, pour que ça donne justement quelque chose d'assez simple à gérer. Alors, tu sais ce qu'on va faire du côté de la Ligue nationale de hockey? Il y a plusieurs scénarios. Là. Tu sais, je ne trouverai pas des scénarios ici, mais on s'entend que les Rangers de New York risquent de se retrouver avec le New Jersey, les Islanders, les Sabres de Buffalo. Alors, ça risque de ressembler à ça. Et la date qui a été ciblée, qui a été encerclée, c'est bel et bien le 13 janvier prochain. La Ligue nationale devrait débuter. On devrait avoir du hockey de la Ligue nationale là, dans une formule vraiment différente. Là, on se le cachera pas. À compter du 13 janvier. Maintenant, c'est de voir comment on va procéder. Est-ce que ce sera dans des bulles? Encore là. Il y a des discussions à ce sujet-là. Je pense que ça ressemble à ça. On va les rassembler dans des endroits, je crois, là. En tout cas, ça a l'air de ça jusqu'à présent. Mais il y a des votes qui restent à faire. Mais la bonne nouvelle, c'est que il va y avoir du hockey de la Ligue nationale. On est pratiquement sûr et certain. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle pour les amateurs. Là, c'est votre cadeau de Noël, je vous annonce ça aujourd'hui.
Et puis de toute façon, on surveillera la saison aussi parce que ça peut changer plein de fois au fil des prochains mois aussi, dépendamment de l'évolution de la situation. Puis, à un moment donné, en fin de saison, il va falloir que des équipes canadiennes affrontent des équipes américaines. À un moment donné, il va falloir trouver le meilleur des meilleurs pour une façon de faire affronter ces divisions-là. Là.
Ben exact, c'est ça la formule qui va être à déterminer, j'imagine, parce que qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tient des séries éliminatoires en division et par la suite, ce sera les gagnants de chaque division qui vont s'affronter dans un tournoi à la ronde? Moi, je pense que c'est le scénario qui est le plus probable, mais encore là, Je peux me tromper, là, on a été très créatifs du côté de la Ligue nationale depuis le début de la pandémie. Puis comme tu as dit, l'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on est près d'une entente, qu'on est très, très près d'une entente, mais on ne sait pas ce que la COVID-19 va nous réserver dans les prochaines heures. Alors, est-ce que ça pourrait totalement changer? Écoute, Sébastien, c'est pas impossible. La seule bonne nouvelle là, que je pourrais vous dire, c'est que le sport semble, en ce moment, au-dessus de la COVID-19. Tu sais, alors qu'on hésite à tout arrêter un peu partout, là, ben, semblerait-il que le sport a un passe-droit pour pouvoir tenir ses activités. Alors, c'est peut-être la seule bonne nouvelle pour la Ligue nationale.
Et sinon, la boxe, ça rapporte du gros cash, ça, puis encore plus par les temps qui courent. Là.
Écoute, on a parlé ensemble du combat Tyson, Roy Jones Jr. Et, tu sais, c'est drôle parce qu'on se disait, bon, à quel point c'est un cachet, ce combat-là, à quel point ça peut attirer les amateurs. Évidemment, ce sont des têtes d'affiche, mais des têtes d'affiche des années 90. On trouvait ça même un peu inusité de ramener deux gars d'une cinquantaine d'années dans un ring pour offrir un combat. On se demandait si c'était pas une raison monétaire, si c'était pas justement là, il y avait pas des intentions pas malsaines, je dirais, mais des intentions disons un peu moins nobles derrière un combat comme ça. J'essaie d'être poli, tu comprends. Et c'était la question qu'on se posait. Ben écoute, Sébastien, il m'a dit une chose, peu importe c'était quoi la raison là. Ce combat-là a généré, et ça, c'est selon ce qu'on a rapporté du côté de l'association de boxe des États-Unis, on a rapporté au niveau du pay-per-view plus de 80 millions de dollars.
C'est fou. C'est complètement fou.
Aucun bon sens, et ce n'est pas un bon présage pour la suite des choses, parce que là, ce qu'on vient de dire, c'est, savez-vous quoi? On en veut d'autres combats comme ça.
Ben oui.
Donnez-nous-en des combats comme ça. Amenez-nous des has-been dans le ring, on en veut. Écoute, je trouve que pendant qu'on n'accorde pas l'attention aux étoiles montantes...
Ouais, c'est ça, c'est le fun pour la jeune génération, ils doivent être contents, eux autres, là, ils sont laissés
de côté. C'est ça, on va donner ça à des has-been. Écoute, moi, je sais là, que le combat était quand même plaisant, on a échangé de bons coups, il y avait une bonne, si tu veux, un bon niveau là, de boxe, mais ça reste que Sébastien, je ne peux pas concevoir que les gens ont dépensé à ce point-là pour regarder ce combat-là. Écoute, c'est pour ça que je suis pas spécialiste de boxe, c'est pour ça que probablement que je ne serai jamais un grand amateur de boxe. Mais écoute, chose certaine, il y a pas mal de gens qui ont décidé de se ranger derrière ce combat-là. 80 millions de dollars juste au niveau du profit net qu'on est allé chercher sur le pay-per-view, c'est complètement incroyable. Ça fait partie des bons combats de l'histoire jusqu'à présent.
Olivier Beauregard, merci beaucoup. On te souhaite une très belle semaine, puis on se retrouve jeudi prochain pour la dernière avant la période des fêtes.
Oui, monsieur.